Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, l'acromégalie, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Brigitte Delemaire. Professeur Delemaire, bonjour.
Bonjour à vous.
Professeur Delemaire, vous êtes endocrinologue, professeur des universités et praticien hospitalier, chef du service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU de Reims. Et au sein du service, vous coordonnez le centre de compétences des maladies rares de l'hypophyse de la filière Firindo. Alors, professeur Delemaire, on aborde aujourd'hui l'acromégalie. Et ma première question est très simple. Quels sont les principaux symptômes rencontrés chez les patients atteints par cette maladie?
Alors, les premiers symptômes de cette maladie, c'est une déformation qui peut se produire au niveau des extrémités. Les extrémités vont augmenter de taille, les mains, les pieds. En fait, il va y avoir une infiltration au niveau des tissus sous-cutanés qui vont être le siège de gonflement, si on peut dire. Le visage va également être modifié avec un nez qui s'épaissit, des traits qui deviennent plus grossiers, la peau qui devient plus épaisse. Donc, tout ce qui se passe au début, on va prendre ça pour des signes de vieillissement. On ne va pas se rendre compte qu'en fait, c'est une maladie qui se développe petit à petit, même si on se voit changer. Donc, on a une morphologie qui se modifie, un aspect du visage et des extrémités qui se modifie. Et c'est vrai que ce n'est pas pour cette raison qu'on va voir un médecin. Donc, c'est pour ça que cette maladie passe si longtemps inaperçue. Après ces modifications, ou pendant que ces modifications s'aggravent, donc des manifestations plus médicales vont arriver, comme une hypertension artérielle, un diabète, des maux de tête, un goitre, des problèmes articulaires. Donc, partout, dans tout notre organisme, les cellules sont le siège de récepteurs de l'hormone de croissance qui va modifier les choses.
Et pour quelles raisons ces symptômes surviennent? Finalement, quelle est la physiopathologie de l'acromégalie?
Donc, l'acromégalie, c'est dû pratiquement dans tous les cas à un adénome de l'hypophyse. Donc, l'hypophyse, c'est cette petite glande qui siège à la base du crâne, en dessous du cerveau, donc elle, qui va être ce qu'on appelle le chef d'orchestre de l'organisme, donc qui va commander un certain nombre de fonctions dans notre individu, dans notre organisme. Donc, un adénome, c'est une tumeur bénigne qui se développe dans l'hypophyse, et cet adénome va sécréter une quantité d'hormones de croissance qui n'est pas du tout adaptée à nos besoins. Donc, chez l'enfant, cela peut faire grandir d'une manière inadaptée, les gigantismes, ça c'est très rare. Et chez l'adulte, une maladie peut-être un peu moins rare, l'acromégalie, va nous transformer alors qu'on ne peut plus grandir.
Alors, vous avez cité les symptômes, dont certains peuvent être assez disparates, voire peu spécifiques. Quels sont les signes d'appel qui doivent alerter et faire adresser les patients pour diagnostic?
Alors, les signes d'appel, donc c'est plusieurs pathologies vont se développer de manière en conséquence de cette acromégalie. Moi, je dirais que les médecins doivent avoir l'œil, ils doivent regarder leurs patients, ils doivent les écouter. Donc, quand on commence à avoir un diabète d'un côté, un goitre de l'autre, avec des traits qui se modifient, chez les femmes, des troubles des règles, puisqu'il y a une interaction avec tout ce qui est reproduction qui est possible. Donc, des maux de tête, on est à l'écoute, on regarde son patient, on regarde les anciennes photos. On vous dit également qu'il trouve qu'il a changé et dans ces conditions, on évoque l'acromégalie. Il peut y avoir aussi donc une fatigue, une hypersudation. Ces gens qui ont l'air pourtant relativement en bonne santé se modifient et se plaignent de troubles extrêmement divers pour lesquels il faut essayer de faire le lien entre différents organes. C'est-à-dire que ça n'est pas un seul organe qui est en cause et c'est pour ça que ça prend autant de temps puisque chaque médecin, malheureusement, s'occupe de l'organe qu'il a, dont il est spécialisé. Parfois, et parfois le médecin généraliste qui connaît trop bien son patient ne s'est pas rendu compte des modifications qui sont survenues chez cet individu parce que ces modifications sont lentes et il n'a pas eu le temps de les voir se constituer, ne fait pas la différence avec ce patient qu'il a vu 3 mois avant ou 1 an avant.
Et lorsque la maladie n'est pas reconnue précocement, professeur Delemaire, ce qui est malheureusement le cas assez fréquemment, quel est l'impact d'un retard diagnostique chez ces patients atteints d'acromégalie?
Alors, l'impact d'un retard diagnostique, c'est la constitution de séquelles. C'est-à-dire qu'on va, c'est une maladie qu'on arrive à soigner à l'heure actuelle. L'hypersécrétion d'hormones de croissance à l'heure actuelle, on arrive à la contrôler par la chirurgie, par des médicaments, par toutes sortes de choses. Donc, c'est une maladie vraiment sur laquelle on a fait beaucoup de progrès. Malheureusement, les séquelles, c'est très difficile de pouvoir les gérer. Les principales à l'heure actuelle, c'est des séquelles articulaires, rhumatologiques. Donc, cette maladie qui modifie, qui fait grandir, qui modifie modifie les articulations, qui modifie les os d'une certaine manière, elle va nous donner une arthrose précoce. Donc les articulations vont être abîmées, on va avoir de nombreuses, enfin une invalidité qui va se poursuivre du fait de cette atteinte articulaire. Et ça, c'est vraiment le problème numéro un chez les acromégales que l'on a contrôlé. Par ailleurs, il y a des problèmes au niveau du massif facial qui se modifie, des problèmes dentaires qui arrivent. Et ça, on ne peut pas revenir en arrière. C'est vraiment extrêmement compliqué. Donc tout cela, malgré un bon contrôle de l'acromégalie, on a du mal à le contrôler. Sinon, les autres complications donc peuvent rester, bien sûr, hein, peut y avoir des séquelles, mais il y a des choses que l'on peut vraiment améliorer. Quand on est vraiment tard dans la maladie, il peut y avoir des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète, etc. Mais globalement, on arrive à contrôler les choses avec notre traitement. Mais les séquelles dont je vous ai parlé, en numéro un rhumatologique, ça, quand c'est établi, on n'arrive plus à revenir en arrière. La durée moyenne de l'errance diagnostique, elle est de l'ordre de 8 ans. On sait quand même beaucoup, mais elle se réduit. Donc, on va se dire qu'il y a du meilleur. Hein. Elle se réduit peut-être parce qu'on fait beaucoup d'examens, on fait beaucoup d'IRM, les gens ont un peu mal à la tête, hop, une IRM, et on va tomber un peu par hasard à l'occasion de ces examens. Donc, mais il y a aussi des médecins qui maintenant dépistent. Et moi, je repère chez les jeunes médecins généralistes, notamment ceux qui ont été internes dans le service ou externes, ils ont vu des patients acromégales et ils les repèrent. Et ça, c'est très important. C'est là-dessus qu'il faut travailler pour pouvoir réduire cette durée de latence du diagnostic qui va ensuite faire le lit des séquelles de cette pathologie que, je rappelle, on peut soigner.
Alors, on l'a vu, professeur Delemer, le médecin généraliste est souvent le premier professionnel de santé en lien avec ses patients atteints d'acromégalie. Comment s'opère la coordination avec les médecins généralistes qui suivent ces patients au quotidien?
Alors, c'est une maladie rare. Donc, dans les maladies rares, c'est vrai qu'on va prendre la main en tant que médecin spécialiste puisque on a que, enfin, on va dire dans un centre comme Reims, on fait 8 à 10 diagnostics par an. Donc, de nouveaux patients. Donc, vous voyez que pour un médecin généraliste, il va rencontrer une fois de temps en temps dans sa vie professionnelle un patient acromégal. Donc, c'est pas lui qui va gérer globalement la pathologie. Par contre, on va travailler avec lui pour tout ce qui concerne les répercussions de cette maladie. Si le patient est diabétique, mais il va gérer le diabète avec nous, bien sûr. S'il y a un problème de goitre, on va se mettre d'accord pour le suivi de la thyroïde. S'il y a des problèmes articulaires, mais il va également nous aider pour les séances de kinésithérapie, pour tout cela, même si on essaye de trouver toujours pour nos patients acromégales aussi des spécialistes référents qui connaissent la maladie pour qu'on fasse un vrai réseau de traitement. Donc, le généraliste, il est vraiment indispensable. Et maintenant, bien souvent, quand il a vu déjà des patients acromégales au cours de ses études ou au cours de son expérience professionnelle, il va le dépister. Et on compte sur lui pour ça. On lui demande pas de faire des études hormonales extrêmement difficiles. On lui demande d'avoir l'œil devant ses patients et de se poser la question de l'acromégalie, car là, il peut vraiment éviter des séquelles à son patient. Donc, dépistage et ensuite travaille avec nous vraiment dans le quotidien, même si c'est vrai que dans les maladies rares, on a tendance à reprendre la main.
Vous avez évoqué également les autres médecins spécialistes susceptibles d'intervenir. Quelles sont les interactions entre spécialistes pour la prise en charge des patients atteints d'acromégalie?
Donc, les spécialistes auxquels on va adresser notre patient acromégal, donc, sont extrêmement divers puisque cette hormone de croissance, l'IGF-1, qui est également sécrétée sous l'influence de l'hormone de croissance, donc, c'est des facteurs de croissance, ça joue sur toutes les cellules de l'organisme. Donc, on va avoir des collègues que l'on va solliciter dans différents domaines. Donc, premier collègue que l'on va solliciter, le cardiologue. Donc, le cardiologue va faire le bilan de l'atteinte cardiaque dans l'acromégalie. Donc, il faut qu'il la connaisse un petit peu. Donc, on va parler avec des cardiologues et on va essayer d'en avoir un seul dans notre réseau pour voir nos patients acromégales. Donc, si on parle de rhumatologie, on essaye également d'avoir des rhumatologues référents qui connaissent les atteintes articulaires des patients acromégales. Bien sûr, le neurochirurgien, mais ça, il est au centre de la question puisqu'il va opérer notre patient acromégal. Donc, le neurochirurgien, on aura un spécialiste de l'hypophyse dans nos équipes qui va vraiment s'intéresser à cette question. Les dentistes, c'est très important. Les dents s'abîment beaucoup dans l'acromégalie. On va essayer d'avoir un intermédiaire. Donc, Notre but à nous, c'est de faire des réseaux hein, avec nos collègues spécialistes, de telle sorte qu'ils connaissent un peu mieux cette pathologie et qu'on puisse faire des prises en charge qui sont plus ciblées et plus adaptées à ces patients. Donc, c'est notre travail au niveau d'un centre de compétences, hein, d'avoir des correspondants pour telle et telle complication. Donc, on va faire des bilans en hôpital de jour pour ces patients acromégales. On va donc demander l'avis de divers spécialistes pour leur prise en charge, même si c'est nous qui coordonnons cette prise en charge.
Eh bien, merci infiniment, professeur Delemer, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'acromégalie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.